Il était sur son char.
Amateur.
Il n'y a pas d'armes, l'art combat ou sert la cause prolétarienne.
Plein d'inardeurs, snob.
Journal vivant, revue politique.
Construction, obéir à sa voix.
Ah oui, c'est un malade, hein, c'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire. Oui.
Imiter son silence.
Et bonjour à tous, bienvenue à cette émission du Théâtre de la Gamelle, qui cette semaine est une carte blanche en compagnie d'Éric Massé, bonjour.
Bonjour.
Il y a avec nous Fatah Boudia.
Bonjour.
Et Anaïs, bien sûr. T'as un micro ?
Oui, c'est bon, ouais. À la technique donc.
On t'a invité, Éric Massé, pour nous parler notamment de Malentendu. Donc tu es le metteur en scène et le créateur de ce spectacle. Ça joue la semaine prochaine du 9 au 12 au Théâtre de la Renaissance. Et ensuite, ça va à Tassin-la-Demi-Lune, c'est bien ça? C'est une pièce qui est tirée du livre de Bernard Leclerc, qui s'appelle Malentendu aussi, et qui raconte la vie de Julien, un enfant né sourd dans une famille dont les parents ont quelques problèmes pour le moins, dont le père a un gros complexe de contrôle et la mère un problème de messianisme, si j'ai bien vu. Une catho, quoi. Et ils vont essayer de le faire parler, ce qui va pas du tout aider au problème, et même plutôt provoquer une force de réaction parfaitement contraire. Ce spectacle est par principe même en plusieurs langages, en français et en langue des signes.
Alors, en français parlé et en langue des signes française.
Puisqu'il y a plusieurs langages des signes.
Chaque pays va avoir son langage propre, puisque le langage des signes s'adapte à la culture du pays. Par exemple, en français, on a 24 lettres à l'alphabet, en Espagne, ils en ont 27. Et puis que chaque pays, culturellement, va avoir une façon de signifier ou de construire la pensée. Donc la langue des signes est donc une langue des signes française. Donc on dit que c'est un spectacle en français, parlé et signé.
Et il y a des moments aussi de surtitres, soit en langue des signes, soit en écrit. Donc du coup, il y a plusieurs langages dans tout ce...
Il y a plusieurs langages. Disons que on trouvait intéressant de réinterroger la place de la langue des signes. Ce qui souvent est, soit c'est un spectacle d'acteurs parlants et on va avoir un interprète sur le côté, soit c'est des spectacles effectivement en langue des signes et là on inverse la situation, on a une voix off ou un interprète sur le côté qui parle. Là, la situation elle-même est la suivante, il y a un personnage sourd qui est Julien, qui en grandissant va apprendre la langue des signes après avoir fui le domicile familial. Et de fait, sur scène, on a un acteur qui est sourd de naissance et qui signe. Et puis ensuite, on va avoir tous les membres de la famille qui se déploient depuis la maîtrise totale de la LSF à une connaissance approximative, à un refus de la LSF. Voilà, donc on va avoir aussi sur le plateau des acteurs qui ne maîtrisent pas du tout la LSF, d'autres qui la maîtrisent un peu et d'autres qui sont déjà bilingues. Et ça représente finalement à la fois la société, mais à la fois, bien entendu, chaque personnage de cette même famille est... De fait, le bilinguisme va avoir différents niveaux, puisque bien entendu, l'acteur sourd a un très haut niveau de langue des signes, alors que par exemple, on peut prendre le personnage de la sœur, travaille vraiment sur, on va dire, sans être péjoratif, de la langue des signes petit nègre, quoi. Donc elle pose des items les uns après les autres, elle se fait comprendre, comme on pourrait se faire comprendre basiquement en anglais avec une base de langage assez restreinte.
Est-ce qu'il y a une sorte de conjugaison aussi dans la langue des signes ?
Conjugaison genre passé, futur, présent. Alors ça, c'est un peu particulier, c'est-à-dire qu'en fait, les sourds vont placer les temps pour démarrer une situation, et donc rien ne se conjugue derrière, puisqu'en fait, ils ont placé le temps, donc ils vont dire avant, hier, maintenant, demain, et ensuite, tout ce qui va être exprimé à l'issue de cette note qui a été donnée au spectateur va, de fait, être conjugué dans un des temps différent. Et on appelle ça la ligne du temps aussi parce que si l'acteur parle d'un temps et d'une chose qui est révolue, il va légèrement incliner son buste à l'arrière. Dans le temps présent, il va être complètement vertical. Et dans une action, une proposition, une suggestion pour l'avenir, il va légèrement s'incliner en avant. Voilà. Donc, du coup, il y a à la fois le fait de placer le signe qui indique la temporalité dans cette ligne du temps, mais aussi de l'inclinaison du corps qui va indiquer, voilà. Donc, par exemple, au moment, puisque tu as vu le spectacle, où Julien, devenu adulte, évoque les souvenirs et les fantômes qui viennent le hanter alors qu'il est de retour dans la maison familiale, il est légèrement incliné en arrière. Voilà, donc après ça, on le perçoit ou pas si on est entendant, mais en tout cas pour les sourds, le signe est clair.
Tout d'abord, enfin pour démarrer sur les questions par rapport à ce spectacle, tu as parlé donc de langue des signes, tu travailles par cycle, donc si je comprends bien, ça fait bien partie d'un ensemble de travaux. Est-ce que tu as cherché ce roman pour pouvoir illustrer un propos ? Donc est-ce que la relation avec le handicap de la surdité vient d'abord, ou est-ce que c'est la confrontation avec le roman qui a lancé le cycle ?
Là, c'est la confrontation avec le roman qui a lancé le cycle. En fait, on a eu l'occasion, dans le cadre de la fête du livre de Saint-Étienne, il y a 2 ans et demi, qu'on ait proposé à la compagnie de monter un ouvrage sur 20 minutes pour aussi faire découvrir une langue littéraire, romanesque, au public. Et on nous a proposé plusieurs ouvrages, dont Malentendu. Donc d'abord avec Angélique Clairant, avec qui j'ai cofondé la compagnie et qui joue la mère dans le passé et la sœur dans le présent de Julien. On a eu un coup de cœur. Voilà, on a littéralement été bouleversés à la lecture du roman. Donc déjà, c'était un gage d'émotion et d'envie de défendre un projet. Et à la suite de ça, on a dessiné ce cycle qu'on appelle le cycle ultra-sensible, qui réunit l'adaptation de 2 romans d'ailleurs, un plutôt tragique et un plutôt comique, qui raconte l'histoire d'un enfant sourd dans une famille d'entendants, et le second qui raconte l'histoire d'une entendante qui naît dans une famille de sourds. Donc c'est des situations connexes et puis en même temps, on va dire, contraires. Voilà. Et puis ce projet réunit en fait un certain nombre de propositions, on va dire, de l'à côté de la scène. Donc c'est des propositions comme par exemple manger, faire un apéro avec les yeux bandés. Donc quel vécu on peut en avoir, se déplacer, donc on mène un certain nombre d'expériences, là je sais plus, je peux pas les compter, mais chaque lieu en fait invente une expérience dans ce cadre-là qui peut lui correspondre. Donc par exemple, on parlait tout à l'heure de la tournée donc qui se poursuit, donc dimanche prochain, dimanche 14 février, on va être accueilli à l'Atrium à 17h pour voir le spectacle, mais les spectateurs dès 15h peuvent venir goûter à l'aveugle. Donc on leur propose une petite déambulation qui est forcément un peu fragilisante, ils rentrent dans un lieu qu'ils ne connaissent pas, dont ils ne voient rien, et puis tout doucement, ils vont prendre un thé, un café, goûter des choses, et à quoi on se raccroche, comment on développe d'autres sens quand on est privé d'un sens. Donc le ultra sensible, c'est déstigmatiser le handicap en valorisant plutôt la sensorialité qui se développe, puisqu'on a un sens en moins qui peut être l'ouïe, mais qui peut être l'odorat, qui peut être...
Oui, quelque chose qui peut arriver finalement à pas mal de monde, ne serait-ce qu'à cause de conditions extérieures. Mmh.
Et puis même, on peut avoir une opération et ne pas voir pendant plusieurs jours... être privé d'un sens, donc c'est une expérience qui est intéressante parce que elle déstabilise beaucoup le public et on essaie de la faire avant le spectacle. Donc là, effectivement, on joue à 17h, donc c'est au niveau d'un goûter, mais ça peut être aussi un apéro sensoriel. On l'a fait il y a pas très longtemps à l'échappée à Sorbier, à côté de Saint-Étienne. Et bon, on a senti que ces spectateurs-là qui avaient pu vivre cette expérience avaient aussi une réception du spectacle un peu différente après.
J'ai appris que tu travailles beaucoup en amont d'un spectacle, notamment dans ce spectacle-là, il y a différentes formes de langage, il y a un travail de scénographie, il y a un travail de dessin aussi, et même la cohabitation de plusieurs langages théâtraux, comme une émission de télévision ou des moments plus intimes. Et je voudrais savoir, depuis quand tu travailles sur Malentendu, comment a démarré ce travail-là, est-ce que tu dessines toi-même pour préparer ces spectacles ?
Alors, le spectacle a débuté par cette lecture, et tout doucement, nous, on s'est nourri, renseigné, on a interviewé des gens qui avaient été confrontés à la surdité dans leur entourage. Ça, c'est une chose qu'on fait systématiquement, des temps d'interview ou d'immersion par rapport à des problématiques qui nous intéressent. Alors, ça peut aller, Angélique a fait un spectacle sur la vente à domicile, donc elle a interviewé et participé à des ventes à domicile. Moi, je prépare un projet qui sera soutenu par le Théâtre de la Renaissance, où je suis artiste associé pour 3 ans depuis ce mois de janvier, qui sera autour de la foi. Donc, on a commencé des interviews de personnes qui ont la foi, qu'elles soient civiles ou religieuses. Voilà, donc ça fait partie d'un travail de terrain systématique. Et puis ensuite, il va y avoir des connexions plus particulières par rapport à chaque projet. Donc moi, à la base, j'ai une formation en art plastique. Donc c'est vrai que la dimension plastique est très importante. Effectivement, pour les sourds, privés du sens qui permet d'entendre un climat, une atmosphère qu'on va dégager. Ils vont être extrêmement sensibles à la lumière, à toute la dimension plastique, d'où le choix d'avoir sur le scène un dispositif assez cinématographique qui se déploie comme un travelling et qui peut permettre des zooms et sur lequel on peut projeter de l'image qui va permettre aux spectateurs sourds de très rapidement pouvoir identifier s'il est dans le présent de la famille, dans le passé, dans un temps imaginaire, etc. Voilà, donc ça va être très important. Et puis donc pour terminer sur ta question, dans le roman, il est écrit que comme l'enfant est privé de langue des signes, donc de capacité à la communication dans son enfance, et obligé d'oraliser des sons qu'il n'entend pas, il se tourne vers le dessin. Et le dessin lui permet de déployer des choses beaucoup plus subtiles sur ses sensations du monde, de caricaturer aussi sa famille. Donc il y a aussi une mise en abîme qui est assez amusante. Et donc on a demandé à une dessinatrice, Émilie Sangelin, de réaliser en fait ses dessins d'enfant. Alors pareil, pour la nourrir, on lui a proposé de faire quelques ateliers avec des enfants du même âge, entendant et sourd, pour voir quelles étaient les spécificités qu'ils allaient développer dans les dessins. Donc ça, c'était très intéressant aussi pour la nourrir. Et puis aussi trouver le style, comment elle, en tant que dessinatrice adulte, elle arrive à se mettre à la place d'un enfant, de sa façon de voir le monde, de traiter les personnages, etc. etc. Et donc les spectateurs vont avoir la chance, qu'ils soient entendants ou sourds, de vivre une expérience commune, puisqu'au moment d'une scène qui va durer à peu près une dizaine de minutes, ils vont plonger dans un univers de dessin. Donc en dehors des langages parlés ou signés, ils peuvent tous se réunir sur ce langage commun qui était celui qui servait à l'enfant sourd.
Donc le principe, puisque la scénographie est une sorte de grande arche écran qui peut reculer et avancer, c'est un parallèle avec cette manière de signifier le temps pour les sourds,
on a aussi cette chose sur ce temps qui se déploie, et puis comme ce sont des panneaux sur lesquels on fait de la vidéo projection, on peut aussi faire tout un travail d'ombre. Donc effectivement, tout ce qui va plutôt être à l'arrière des écrans va être vraiment plongé dans le passé ou l'imaginaire, et puis selon la place de l'écran, on est dans des temps différents aussi, oui. Donc c'est pour ça que je parlais d'un effet un petit peu cinématographique, comme on peut le déployer au cinéma.
Et toi, tu ne connaissais pas forcément la LSF, donc tu as du tout à apprendre sur le tas.
Ah ben oui, je suis parti de zéro, quoi. Mais zéro total.
Par rapport à ça, comment tu as pu travailler avec Steve Recollon et...
Ah ben, ce qui est beau, c'est que quand on démarre, on est complètement ignorant. Donc ça, c'est très bien. La première fois qu'on a travaillé avec lui, Angélique et moi, il nous a rejoints à Saint-Étienne. Et puis... il lisait sur nos lèvres, on écrivait des mots. On n'a même pas pensé qu'il fallait qu'on ait une interprète. Alors, si, on avait contacté une association qui nous avait dit qu'il viendrait 2 heures par jour nous donner un petit coup de main. Donc ça a été le cas. Mais on pensait que c'était bien, mais que c'était pas fondamental. Enfin, on n'en savait rien, en fait. Donc c'était très beau aussi, tout doucement, de découvrir... Effectivement, même maintenant, dans la distribution, donc on a cette comédienne bilingue Géraldine Berger, qui bosse beaucoup avec Complex Capharnaüm, là, sur Lyon, qui... est bilingue depuis une dizaine d'années, et du coup, qui joue le rôle de l'interprète dans la pièce, qui permet le lien entre la famille parlante et lui signant. Donc de fait, dans la vie, elle nous aide aussi à cet endroit-là, mais il y a des moments où elle n'est pas là, et puis on communique sur un sujet très précis, c'est-à-dire qu'on va être sur cette réplique-là, donc du coup, moi j'en connais les signes de la réplique, hein. Lui aussi, et je peux lui indiquer une histoire de tempo, d'émotion, éventuellement on s'écrit quelques mots, il lit sur les lèvres. Donc sur des moments courts, précis et très ciblés, on peut se passer d'elle. Après, ce qui est bien, c'est que comme elle est là dans toutes les répètes, on a aussi une liberté pour creuser des sujets avec elle, et ça c'est super. Personnellement, Angélique, donc Clairant et moi-même, on a appris sur le tas. Elle, ses répliques, parce qu'elle a des répliques signées. Moi, j'ai appris en regardant les vidéos de chacun quand on faisait le temps de préparation. Et puis, on a fait des temps de formation. Donc, moi, à l'IVT, donc à Paris, c'est l'institut, le théâtre que dirige Emmanuel Laborie, qui est la seule comédienne française qui a reçu une récompense en tant que comédienne, mais qui a la particularité d'être sourde pour les enfants du silence, et qui dirige l'IVT à Paris, qui est le théâtre Visual Theatre, International Visual Theatre. Et Angélique, elle a fait une formation sur Lyon aussi pour avoir des basiques, quoi. Aussi, c'est la pause, tu veux manger quoi, finalement un langage qui n'existe pas dans la pièce, et la pièce nous fait des fois maîtriser des signes très complexes alors que des choses basiques pour communiquer on ne les maîtrise pas du tout.
Et donc un travail avec lui s'apparentait plus à un travail de chorégraphe ou un travail de direction d'acteur?
Non, direction d'acteur, parce que on a eu la chance aussi de pouvoir collaborer sur ce projet avec Anthony Guillon de la compagnie On Off, qui est une compagnie assez remarquable dans le fait que déjà qu'elle est dirigée par un comédien, un metteur en scène sourd, et qui nous a aidé à la direction de jeu dans la langue des signes, parce qu'effectivement, moi je peux faire quelques retours, j'en fais, hein, sur des tempos, des émotions, mais la qualité du geste, je serais bien en peine de lui en dire quelque chose. Donc c'est vrai que quand Anthony passe, il est très riche pour aussi éventuellement changer les signes qui lui semblent pas assez pertinents, ou modifier les rythmes, donner une intensité un petit peu différente, et puis aussi nous apporter des ingrédients intellectuels de la culture sourde.
Tu m'avais parlé aussi de traduction, des comparaisons entre les métaphores. Mm. Tu avais parlé de VV aussi, que je ne connais pas.
Alors, la VV, c'est Virtual Visual. Donc là, on part effectivement sur ce dont tu parlais avant, de la dimension chorégraphique. C'est-à-dire que la langue des signes, bon, c'est une langue qu'on peut estimer chorégraphique parce qu'elle est visuelle et qu'elle est traduite par le corps, mais ça reste une langue quand même. Alors que la VV n'est pas une langue avec un abécédaire. C'est un travail qui est entre la langue des signes et une matière chorégraphique ou du mime, voilà. Enfin, ça se promène à travers tout ça. Donc, il y a une langue qui, en elle-même, peut être accessible par du tout public parce que il est dans une narration, il suit quelqu'un qui va dessiner à travers la Virtual Visual, la VV, une histoire. Voilà. Donc, on a aussi particulièrement une scène qui est traitée en VV puisque c'est une scène un peu fantasmagorique, c'est une scène de cauchemar. Et ça donne un accès complètement différent pour les gens qui regardent.
Tu m'avais parlé de métaphore aussi et de la manière de traduire le moment avec le champagne.
Oui, alors ça c'est un peu particulier, c'est-à-dire que c'est un moment donné où le père, tu parlais de l'émission de télévision tout à l'heure, donc dans son fantasme de faire que son enfant parle, il se fantasme aussi écrivant une biographie d'Edouard Graham Bell, racontant comment lui a transcendé la surdité, parce que Edouard Graham Bell, qui a inventé le téléphone, avait une femme et une mère sourdes. Et il a inventé le téléphone, ironie de l'histoire, alors qu'il cherchait à amplifier les sons pour elle. Donc les sourds n'ont jamais profité du téléphone, à part des SMS maintenant que la technologie s'est développée. Mais voilà, donc lui, il se fantasme comme pouvant écrire un ouvrage qui va révolutionner le monde, et il s'imagine dans une émission de télé où il a tout un délire qui, démarrant plutôt sous, on va dire, une volonté de parents d'ériger leur fils dans le monde, décline plutôt un discours fascisant, d'éradiquer finalement la surdité et tout ce qui va avec. Et à l'issue, il se retrouve, c'est qu'un fantasme, hein, donc du coup il se retrouve un peu seul, et le comédien, en français parlé, puisque ce soit un extrait du roman, dit voilà, c'est des petites projections dans l'avenir qui sont très plaisantes, j'adore faire ça, c'est un peu comme si on mangeait du miel à crédit. Voilà, donc cette chose-là, quand on s'est retrouvé avec Anthony Guillon, il dit waouh, pour nous, ça n'a pas de sens. Enfin, ça va être intraduisible, ça va faire du français traduit. Donc lui, il traite ça. Le père, après cette émission de télé, est traité en signe, en vidéo, surtitrage, avec un verre de champagne, fêtant cette victoire. Et puis tout doucement, Anthony met en doute la réalité de ce champagne. Voilà, ça va être un moment qui, au final, va être identique au niveau de la compréhension pour les entendants, pour les sourds, mais qui va prendre un chemin différent au niveau de l'imaginaire et des images qui sont convoquées pour le faire comprendre.
Donc il y a un vrai travail de traduction, comme en littérature, d'autant plus que le LSF va utiliser plusieurs niveaux de langage, les lettres, des signes courants et d'autres niveaux de signes qui vont être de plus en plus poétique ou métaphorique.
Et qui peuvent aller vers la VV, justement. Donc il y a toute cette échelle. Mais je peux vous donner une petite phrase qui est intéressante. C'est la phrase finale, d'ailleurs, du spectacle. Donc un personnage, à la fin, va demander pourquoi est-ce si difficile, même lorsqu'on l'éprouve, de réussir à dire l'amour, d'apprendre à le partager, à le parler. L'amour, cette langue étrangère. Alors, en langue des signes, je vais vous donner en fait la traduction des signes qui sont produits. Donc ça va faire exprimer, 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 signer, dedans amour, exprimer, partager, toi, détourner le regard, pourquoi ? Voilà, donc pour un entendant lire ça, il n'arrive pas du tout à comprendre la chose qu'il a entendue de façon littéraire, qui était pourquoi est-ce si difficile, même lorsqu'on l'éprouve, de réussir à dire l'amour, etc. Mais le sourd, de par sa culture, il est habitué à des associations d'images, parce que chaque signe est une image, et au bout du compte, il va avoir une pensée similaire. Voilà. Donc c'est complexe à comprendre quand on est entendant, mais par contre ce travail de traduction est très important. Alors on peut le simplifier, c'est-à-dire qu'effectivement quand on est sur un discours simple comme bon, je vais aujourd'hui faire une radio, je vais manger à telle heure, qu'est-ce qui fait beau, c'est difficile. Vraiment là on est sur des signes hyper identiques, voilà. Sauf quand on passe dans une réflexion qui est conceptuelle ou poétique, on peut pas rester collé au français parlé. Et c'est là où il faut déployer un imaginaire un peu différent et que les signes qui vont être produits, associés les uns avec les autres, vont créer une pensée. Et il faut accepter aussi donc de lâcher, comme on le ferait pour Shakespeare, l'écrit initial pour le retrouver plus tard en s'en écartant quelque temps.
Vous faites coexister quatre formes de langage sur scène. Tout ou partie du public ne veut pas tout comprendre de toute façon. Est-ce que tu as divisé ? Est-ce qu'il y a des choses que seulement des personnes qui connaissent la LSF vont comprendre et d'autres choses que seuls les entendants vont comprendre ?
L'histoire est bilingue. Donc on fait exprès, même quand on va avoir la VV, il y a quand même une bande de son qui raconte avec des mots l'histoire. Donc l'intégralité du spectacle est suivie par les entendants et par les sourds ou ceux qui maîtrisent la LSF, qui sont entendants. Mais à l'intérieur de l'histoire, on se permet des petits espaces de liberté. Bon, par exemple, on peut avoir à un moment donné, je vais donner deux exemples, où le fils montre l'image de la mère qui est vidéo projetée, et puis il tape avec ses doigts sur son foie, ce qui veut dire faute. Donc, c'est-à-dire, il dit faute, maman, faute, coupable. Et la mère, elle, va dire un texte qui va durer peut-être 2 minutes, où elle va parler de cette culpabilité. Alors, c'est vrai qu'en temps, c'est beaucoup plus court la proposition en langue des signes, mais en nombre chinoise, elle est produite, elle va créer un effet très fort, et en fait, avec deux signes, il rassemble la pensée de l'actrice qui se déploie sur 2 minutes. Ça peut exister en sens inverse, où à un moment donné, la parole va être plus courte et la langue des signes plus longue. Ça traduit l'équivalence. Après, comme les personnages sont autonomes, par moment, à un moment donné, il y a la sœur, il y a son frère qui parle, et elle parle à Julien, elle dit « Oh là là, notre frère, il est chiant, viens, je t'emmène, on se casse et tout. » Donc ça, il y a que les sourds qui le voient. Parce que comme elle parle à son frère en langue des signes, on va pas traduire cette petite chose. Mais c'est intéressant parce que du coup, on entend des fois les sourds qui se marrent et les entendants qui disent « Qu'est-ce, pourquoi ils se marrent ?» Et ça marche aussi en sens contraire. Donc voilà, globalement, on va dire à 95%, l'histoire est vraiment bilingue, mais on se permet des petites entorses de temps en temps. Aussi parce que les personnages se permettent entre eux. C'est intéressant aussi parce que ça crée un petit peu une connivence avec chacun des publics.
Le personnage de Julien, donc, il ne se présente pas vraiment comme victime pour le coup. Il arrive même dans la pièce assez engagé, assez dur, voire même presque extrémiste. Il parle d'indépendance des sourds ou d'une sorte de république. Enfin, donc, ce n'est pas un personnage qui va être facilement sympathique juste parce que il a cette naissance. Comment tu as travaillé ce personnage ? Cette complexité était-elle déjà dans le bouquin ?
Elle est dans le roman, en fait. C'est le principe. Là, par exemple, cette deuxième étape, ça s'appelle « Malentendu l'enfant inexact », mais on l'a aussi appelé « Malentendu l'héritage », parce que, en fait, l'histoire concrète, c'est on commence la pièce 20 ans après la fuite de Julien, qui revient pour la première fois dans la famille. Et pourquoi il revient ? Pour l'héritage. Voilà. Mais cet héritage, bien entendu, il y a cette maison à partager, cette maison qui a une valeur assez importante. Mais quelque part, l'héritage, comme tu le dis, la pugnacité du père, on la retrouve chez qui ? Chez lui. Donc cet héritage, en fait, il est à travers aussi les personnalités. Alors qu'il a cherché à fuir, à repousser, à rejeter ce père, il va paradoxalement être celui des enfants qui lui ressemble le plus.
D'accord, donc du coup, il y a une partie de l'extrémisme du père, puisque c'en est un, qui veut absolument faire parler les sourds, et qui se retrouve chez Julien lui-même.
Oui, c'est ce qui est le plus passionnant finalement dans l'histoire, c'est comment dans l'histoire on n'est jamais blanc ou noir, et tu parlais de la notion de victime, ce qui est assez beau c'est que chacun se présente comme une victime dans l'histoire. Là c'est marrant parce qu'on lui fait des signes, alors je viens de lui faire des signes en langue des signes qu'on peut se permettre à la radio puisque personne ne les voit, et chacun est victime, c'est-à-dire qu'effectivement lui il a été la victime de son père, mais sa mère, on a imposé à sa mère de faire des exercices d'orthophonie au fils, donc elle est victime du père, mais elle-même oblige son fils à le faire, donc il la rend coupable. Le frère aîné se sent victime parce que tout le monde s'est concentré sur ce pauvre petit frère handicapé, il n'y en avait que pour lui, et que lui, quoi qu'il fasse, il n'a été jamais reconnu. Et en fait, dans cette famille, à un moment donné, on s'aperçoit que tout le monde se considère comme la victime des autres, alors du handicap de l'autre ou du centre qu'a donné le handicap à l'autre, ou voilà. Donc il y a aussi une tension qui
une histoire complexe.
Voilà, qui est extrêmement théâtrale parce que sans tension, sans conflit, il y a pas de théâtre. Là, il y a ce qu'il faut.
Tu avais proposé de mettre une musique Sound of Silence.
Yeah.
Et donc on va passer ça et on revient après.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light, it split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell and echoed the wells of silence. People bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispers.
Bienvenue à cette émission spéciale avec Éric Massé pour la pièce Malentendu, l'enfant inexact, qui joue la semaine prochaine au Théâtre de la Renaissance et à l'Atrium à Tassin demi-lune le 14 février. Tu travailles par cycle. Quelle est la suite de ce cycle ?
Ultra sensible. Donc, le premier projet, c'est ce premier roman. Et le hasard a fait que le deuxième projet sera un autre roman, qui est le roman de Véronique Poulain, qui s'appelle Les mots qu'on ne me dit pas. Puisqu'on ne peut pas lui dire ces mots, puisqu'elle-même est entendante et ses parents sont sourds. Donc elle aura tous ces mots qu'on ne lui dira jamais, y compris « je t'aime ». Donc ce roman, on l'a aussi découvert dans le même cadre que le premier, c'est-à-dire dans le cadre de la fête du livre à Saint-Étienne. Pareil, confié à des compagnies, des petites formes, voilà. Donc moi, ils étaient assez sûrs de leur coup, puisque la première année, ils m'avaient confié Malentendu. La deuxième année, quand ils m'ont dit « on a un truc, tu pourras pas refuser ». Voilà.
Mais ça veut dire que Malentendu, ça fait 2 ans que vous travaillez dessus.
Ouais, 2 ans et demi. Voilà. De toute façon, 2 ans et demi, c'est à peu près le timing entre découvrir un texte, constituer une équipe, monter une production. Quand on fait plus court, on peut, mais il faut que ce soit vraiment un objet très léger. Là, c'est pas léger, hein. Comme on a 4 personnes sur scène, une grosse équipe technique pour assurer la vidéo et tous ces mouvements, voilà. Il y a le surtitrage envoyé, on est 9 en tout. Donc là, non, c'est un timing normal de montage, de projet. Là, par contre, l'autre projet étant beaucoup plus léger, c'est un duo d'actrices. Donc il y a le personnage de Véronique Poulain et puis un autre personnage qui parle aussi en fonction de ses interlocuteurs et qui va être une petite forme qu'on va proposer aussi au théâtre, soit dans la suite d'avoir accueilli Malentendu, soit en même temps pour donner un regard complémentaire sur la surdité et puis complémentaire dans le genre puisque c'est un texte assez burlesque, d'autant que l'auteur a été pendant une quinzaine d'années l'assistante de Guy Bedos, donc ça a un petit peu aussi aidé à développer son écriture et son ironie.
Malentendu est une grosse forme par rapport à ce que tu fais d'habitude ?
Il n'y a pas de règle. J'ai pas de règle. Dernièrement, on a créé des solos. Donc forcément, c'est une grosse forme par rapport à des solos, puisque moi, j'ai fait un solo sur l'émancipation féminine qui s'appelait Femme verticale, qui est passé au Théâtre de la Renaissance la saison passée. Et Angélique Clairant, donc, elle a créé un projet autour de la vente à domicile qui s'appelle Top, ou la coupeuse de feu. Donc oui, là en l'occurrence, on passe de un interprète à quatre, mais l'année prochaine, on va être sur des distributions avec une dizaine d'interprètes, puisque ça sera un Tartuffe avec à peu près une distribution complète. Non, on n'a pas de format. Ce qui compte, c'est le projet avant, et puis après on essaie de se donner les moyens de réaliser ce qu'on a en tête.
J'aimerais aller plus loin sur ton travail lui-même en dehors de Malentendu, et notamment ce travail par cycle. C'était quelque chose qui était là dès le départ, non ?
Oui. On a commencé tout de suite, on a fait un cycle autour des meurtrières contemporaines. Donc il y avait une règle très stricte, c'était des femmes qui étaient de nos jours, hein, donc on n'était pas sur des tragédiennes antiques. Ça s'appelait meurtrie, tragédie de cuisine. Et donc elles étaient toutes femmes de ménage, ASH ou CHU, donc aides-soignantes hospitalières. Enfin bon, en gros, elles faisaient le ménage dans des endroits plus ou moins variés professionnellement, mais c'était la contrainte. Donc on a monté Les Bonnes de Jean Genet, un texte qui s'appelait Encouragement de Sophie-Lane Franck, qui racontait l'histoire d'une ASH au CHU qui débranchait des patients, et puis Les Présidentes de Werner Schwab. Donc voilà, c'était aussi un choix de parler d'un type de personnes qui, dans la société civile, n'ont pas la parole, parce que parfois, elles n'ont pas les mots pour cela. Mais il y a des auteurs formidables comme Schwab ou Genet qui leur ont donné la parole. Mais on reprochait à Genet de donner un langage pareil à Des Bonnes. Mais il dit, mais est-ce qu'on sait si dans le secret de leur alcôve, le soir, elles n'utilisent pas ces mots pour s'exprimer ?
Quand tu as la proposition d'un cycle comme ça, tu ramènes le thème par le premier travail auquel tu es confronté, ou alors c'est un thème...
Pas forcément. Des fois, je pense que sur les tragédies de cuisine, par exemple, on avait une pièce ou deux qui nous intéressaient. L'avantage d'un cycle, c'est que pour l'équipe, c'est assez passionnant au niveau de la recherche, et ça nous permet de travailler sur plusieurs années. Parce que c'est vrai que sinon, si on manque une pièce par an, alors la pièce, bon, on part dans un monde à fond, on fait plein d'enquêtes, et clac, l'année d'après, on part sur autre chose. Donc il y a déjà cette chose-là. C'est intéressant aussi pour certaines fois pour les théâtres, qui bien sûr s'intéressent à l'impact sur leur public, qui, d'une aventure à l'autre, peuvent aussi affiner un regard sur des projets. Donc il y a des théâtres, par exemple, à l'époque, quand on a fait les tragédies de cuisine, qui ont aussi programmé sur la fin du cycle, une fois qu'on avait tout créé, tous les spectacles en une semaine. Donc les gens pouvaient, dans la même semaine, avoir des aventures différentes qui étaient reliées par une thématique. Mais on peut aussi, par exemple, là, le projet autour de la foi, j'ai d'abord eu envie de questionner la foi aujourd'hui et ses dérives. Bon, j'ai commencé il y a 2 ans déjà. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est d'une actualité brûlante.
Le
Tartuffe fait partie de ce cycle, mais il est venu dans un second temps comme étant un texte. On s'est dit, ah oui, là, c'est sûr que, bon, vu la problématique, le Tartuffe est très intéressant à monter.
Et du coup, ça fait 15 ans que tu pratiques la mise en scène.
Oui.
Et tu avais commencé par un travail d'acteur.
En fait, j'étais formé comme comédien à la base, hein, et c'est au sortir, maintenant, les écoles ont développé ça beaucoup, mais nous, on était la première promotion à le faire à Saint-Étienne, la dernière année, de proposer de faire des workshops, des petits formats d'expérience. Voilà. Et donc, notre premier format d'expérience, je l'ai fait avec Angélique, c'est aussi ce qui nous a donné envie de créer la compagnie, et on l'a fait autour d'extraits de Angels in America, qui était autour de la foi, parce que c'était l'histoire de Mormons. Voilà. Donc, moi, j'avais vécu aux États-Unis, j'avais côtoyé les Mormons, donc ça m'intéressait vachement de le monter.
Vu en vrai ?
C'était des amis à moi. J'allais dans leur grande soirée de prière et tout, c'était très festif. Et du coup, j'ai entraîné Angélique dans cette aventure-là. Je l'ai envoyée dans des églises mormones pour qu'elle récupère des informations, des sensations, des bibles en français. Voilà. Et donc, effectivement, c'est l'histoire qui débute.
La compagnie s'appelle la compagnie des Lumas. Alors, forcément, tu vas devoir dire qu'est-ce que c'est qu'un luma.
Alors,
et pourquoi
un luma, c'est un escargot en patois poitevin. Et Angélique et moi, nous sommes tous les deux issus de l'ouest de la France. Et quand on a décidé de créer la compagnie, on a essayé de définir quels étaient les axes majeurs pour nous. À l'époque, on était dans un gros CDN en formation. Il y avait des gros spectacles en salle. Et on s'est dit, pff, les salles, c'est bien, c'est super. Mais il faut qu'on trouve aussi un nom qui inclut de travailler un peu n'importe où, dans le milieu rural, avec des comédies itinérantes, dans des appartements, dans des prisons. Et l'idée du Luma, ça veut dire escargot, en patois poitevin, il a sa coquille sur le dos. Donc, c'était l'idée d'emmener son habitacle avec soi à travers le monde. Et puis, les Lumas, c'est ce qui nous avait fait nous reconnaître instinctivement, puisque quand elle a présenté sa scène de concours à la Comédie de Saint-Étienne, j'y ai assisté, elle jouait une paysanne dans Don Juan, et elle commençait en chantant une chanson de notre pays qui s'appelle « La sauce aux Lumas ». Et donc j'ai tout de suite su que c'était une fille de mon pays.
J'ai cru entendre un slogan aussi lié à ça, lié à ta compagnie, qui est, enfin à votre compagnie. Ça avance lentement, mais ça laisse des traces.
Des traces brillantes, parce que c'est des traces, c'est... Non, oui, voilà. Qui avance lentement, mais laisse une petite trace brillante derrière soi. C'est le Luma.
Alors, je me permets, il est 13h41.
Et je dois partir à Tassin 2001, qui va nous accueillir bientôt et qui propose une petite table ronde avec initiation à l'LSF à des spectateurs qui ont envie d'en savoir plus. Merci beaucoup pour l'invitation.
Merci
à toi.
Et merci à toi.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Eric a dû aller à Tassin la 2001. Donc c'était à propos notamment de son spectacle Malentendu, l'enfant inexact, qui jouera donc la semaine prochaine du 9 au 12 à la Renaissance et le 14 février à 17h à Tassin la demi-lune.
À l'Atrium,
avec la particularité que le 14 février, il y a un goûter dans le noir qui permettra de s'habituer à de casser les sensations de
un goûter à l'aveugle.
Donc on enlève un sens et puis on regarde ce que ça donne
pour favoriser les autres.
Donc, on va passer maintenant à la chronique. Cette semaine, ça tombe sur le canard sauvage d'Ibsen par Stefan Brochweg au TNP. C'est en ce moment, donc c'est une tragédie, oui monsieur, et ce malgré ses accents ornithologiques. Voici donc le canard sauvage en 3 minutes, et pour rendre service, je dois dire, attention, spoiler. Faites attention quand même, hein, ce pistolet-là est chargé, hein, et pas à blanc. Hein. Pour plus de prudence, je vais le laisser là, bien en vue. Bien sûr, n'allez pas imaginer qu'il va servir, c'est tout à fait incidentel.
Papa ?
Ma fille !
Almar, mon ami.
C'est Jalmar.
Jalmar, pardon.
Gégère, mon ami.
C'est Grégers.
Grégère.
Bon, bah, non, mais laisse tomber. Mais c'est ta merveilleuse fille qui est là.
Oui.
Et comment ça va, Almar ?
C'est Jalmar.
C'est pas facile aussi.
Jalmar.
Comment ça va ?
Bien, bien. Bon, c'est pas Byzance, c'est ma fille qui est malade, et notre canard sauvage, Titus, qui est malade aussi, mais sous réserve qu'il n'y ait pas d'accident. Par exemple, avec ce pistolet chargé, ça devrait aller bien bien. Je vais te chercher une bouteille de bière, tiens.
Merci, mon bon ami. Dis-moi, ma petite Edwige, comment ça va ?
Moi, c'est Edwige.
Non, mais... Comment ça va ?
Bien, j'aime mon papa.
Ah, c'est bien.
Et j'aime ma maman.
Oui, c'est bien.
Et j'aime mon grand-père.
C'est bien.
Et j'aime mon canard sauvage aussi.
Non, mais il y en a encore beaucoup.
Et j'aime mes lapins. Et puis
il y a les lapins
j'aime aussi mes poules.
Mais on va faire.
Et puis j'aime bien aussi les amis de mon papa.
Ah, c'est bien. Moi aussi, j'aime beaucoup ton père. D'ailleurs, je suis là pour aider.
Ah oui ?
Oui, oui, je suis très concerné par son bien-être. Et d'ailleurs, tu sais que les lapins, c'est pour les manger. Qu'on les tue et qu'on les écorche et qu'on les mange.
Non.
Moi, je dis ça pour rendre service, hein. Non, mais tu sais que le canard aussi. Les magrets, c'est une partie qu'on découpe par là.
Non.
Ah, enfin, je dis ça pour rendre service, hein. Mais tu sais que ton père n'est pas ton père.
Non.
Et tu sais que ta mère ne t'aime pas.
Mais non.
Ni ton grand-père. Enfin, moi, je dis ça, c'est juste pour rendre service, hein.
Non.
Et tiens, prends le pistolet chargé et va jouer. Il faut que les enfants s'amusent. C'est important. Ah, c'est si bon de rendre service.
Mon bon ami, voici les bières.
Almar.
Jalmar.
Vous avez de ces noms aussi. Et je suis si heureux. Aujourd'hui, Almar, si heureux. Non mais c'est si bon de rendre service, de participer au bonheur des autres.
Mon pistolet. Ma fille.
Donner du bonheur. Ah, c'est déjà un recevoir. Et il dit, comme ça pour aider, hein, tu savais que ce n'était pas ta fille. Enfin, moi je dis ça, c'est pour aider, hein. Hein?
C'était donc le canard sauvage d'Ibsen en 3 minutes. C'est en ce moment dans une mise en scène de Stefan Brochweg au TNP et jusqu'à demain samedi à 20h. Bien à vous, n'oubliez pas que les armes à feu sont à consommer avec modération et bon week-end à tous. Est-ce que quelqu'un a des annonces pour cette émission ?
Oui, moi je... Donc c'est Anne-Sophie, je suis arrivée en retard, désolée, bonjour à tous les auditeurs.
Bonjour Anne-Sophie.
Bonjour Anne-Sophie. Moi je suis allée voir Richard III hier soir, donc Richard III, pardon, Loyauté me lie. Donc évidemment de William Shakespeare. Ça se passe au TNG, Théâtre Nouvelle Génération, qui est le CDN de Vez, enfin de Lyon. Ça a commencé mercredi et ça se termine le 6, donc c'est-à-dire samedi.
On est en concurrence alors.
Ouais, voilà, c'est ça. C'est pour ça que je disais ça. C'est à 20h. Alors déjà, c'est une scénographie qui est assez imposante. C'est exceptionnel, moi, je trouve. Donc, ça va être un système de castelet. Un petit peu, on a un peu l'impression de se retrouver dans une foire, un peu un freak show. Il y a deux clowns qui vont être, du coup, les personnages. Ils vont jouer tous les personnages, en fait. Donc, il y a Jean Lambert Wild, qui est aussi le concepteur du projet. Et Elodie Bordas, qui est aussi une comédienne, une clown absolument exceptionnelle, qui est très généreuse dans son jeu, dans sa partition. Et ce qui est agréable aussi dans le clown, enfin des fois le clown est parfois un peu trop grossier, mais là c'est très juste. Il y a un vrai échange avec le public. Très souvent les lumières reviennent en salle. Il y a aussi un moment donné où il y a un entracte, et du coup celui qui joue Richard III, donc Jean Lambert Wild, arrive avec des pop-corn baffes. Enfin voilà, il fait une distribution de bouffe un peu comme au cinéma. Dans l'ancien temps, évidemment. Et donc voilà, donc ça reprend Richard III, ces deux clowns qui ont pour objectif, en tout cas, de reconstruire leur propre Richard III. La scénographie est magnifique, donc vraiment c'est quelque chose à voir. Il y a quatre espaces qui sont utilisés sur cette scénographie. Ils viennent aussi un petit peu en salle. Et puis il y a de la vidéoprojection et du tracking. Donc le tracking, c'est un système, c'est les nouvelles technologies en fait qui permettent une reconnaissance faciale. Et ensuite il y a une vidéoprojection qui est donc projetée sur le castelet à des endroits très particuliers. Et donc voilà, donc ces changements en direct. On a aussi des morts qui sont exceptionnelles. Richard III.
C'est... Des morts, c'est-à-dire.
Ah, les morts, c'est-à-dire que les morts des personnages, t'as Hastings qui a une mort absolument géniale. Il y a aussi un super beau travail sur la marionnette qui est tout con, tout simple. Donc c'est vraiment fait avec des bouts de tissu dans un premier temps. Enfin, pour deux premières marionnettes qui représentent les enfants de. Je ne sais plus, Édouard. Et puis il y a aussi la femme d'Édouard qui, elle, va finir très mal et qui est complètement manipulée par Richard III. Et. Ça devient une marionnette à ce moment-là. C'est très très beau, juste visuellement. Et puis il y a d'autres morts qui sont vraiment géniales. En fait, c'est très beau. C'est pas des morts sanglantes. Au contraire, c'est pris un petit peu dans cet esprit freak show. Donc il y a de la barbe à papa. Enfin, je vais pas tout vous dire.
On peut en manger.
Et les comédiens s'amusent à en manger, évidemment.
Et nous?
Non. Mais ça va. T'as quand même des pop-corn. Pop-corn, des bonbons. Donc ça va pendant le spectacle. C'est 2 heures sans entracte, moi qui suis. Très, très, très critique, très, très dur. J'ai regardé ma montre à 21h45. Donc, c'est plutôt. Voilà, c'est chouette. Et puis, non, alors, j'avoue, il y a quand même. Forcément, il y a quand même des petites choses qui ne vont pas. Comme ils sont que deux comédiens et que c'est une pièce de théâtre où il y a énormément de personnages, des fois, on s'y perd un peu. Sur qui joue quoi, où est-ce qu'on est aussi. Mais en fait, on accepte. À partir du moment où on accepte ça, on se laisse emporter par ces deux clowns qui sont vraiment très bons. Et puis voilà. Mais en tout cas, vraiment, l'ambiance générale est géniale. C'est très jouissif. Et puis, il faut accepter de pas tout suivre, de toute façon, de l'action de Richard III. En tout cas, c'est un personnage qui est très fort et qui est très bien servi par Jean Lambert Wild, donc, et Elodie Bordas, qui va faire tous les rôles secondaires, mais absolument de manière géniale. Voilà. Enfin, j'ai été vraiment enchantée.
Tu peux nous redonner les dates et
oui, alors donc ça joue encore ce soir. Donc nous sommes vendredi 5 février, ça joue à 20h. Et demain soir, samedi à 20h aussi, samedi 6 février. Et ça se passe donc au TNG, Théâtre Nouvelle Génération, Centre Dramatique National de Lyon. Et ça se trouve précisément à Valmy ou Gare de Vaise. Et voilà, c'est à 5 minutes de métro. Et les prix sont abordables, je les ai ici, puisque ça va de 13 euros pour les tarifs réduits. Intermittent du spectacle, tout ça. Ah, j'ai plus les tarifs. Bon, en gros, vous aurez compris que moi, j'ai payé 13 euros. non, je sais pas. Ça doit aller jusqu'à 20 euros max, quoi. Mais voilà, en tout cas, ça vaut le coup d'y aller.
Il n'y a pas que les intermittents qui ont des tarifs réduits.
Tout à fait.
Bien évidemment.
Tout à fait, bien sûr. Donc voilà.
Eh ben, j'en profite pour clore cette émission de proposer à tous les enfants entre 6 et 12 ans de s'inscrire à un stage théâtre qui aura lieu du 22 au 26 février et qu'on anime la compagnie Les Montures du Temps avec plusieurs intervenants, metteurs en scène et comédiens. Donc ça se passe au 169 Grande Rue de la Guillotière du 22 au 26 février de 9h. À midi. Et donc, ce sera initiation au théâtre, improvisation, expression corporelle écriture, voix, voilà. Donc il y aura plein, on avait abordé plusieurs disciplines artistiques. Donc si vous avez donc des enfants ou si vous-même vous êtes des enfants qui nous écoutez, vous voulez vous inscrire, il suffit de peut-être de, dans un premier temps de prendre contact avec la compagnie Les Montures du Temps par mail. Donc je vous invite à écrire l'adresse suivante: Les Montures du Temps, LESMONTURESTEMPS. J'espère que je ne me suis pas gourée. Les Montures du Temps.
Tu peux le faire en langue des signes.
@free.fr. Et donc, voilà, pour les inscriptions et les renseignements, vous passez d'abord par l'adresse mail.
Voilà. Et pour les podcasts des anciennes lectures, des lectures précédentes, on peut les retrouver aussi.
Alors, il va falloir qu'on s'attelle à un grand chantier de chargement des anciennes émissions. Ouais. Donc, il faudrait qu'on fasse une sorte de petite réunion entre les gamelliens pour savoir où sont les enregistrements des unes et des autres. Et donc, par ailleurs, pour ceux qui voudraient réécouter cette émission d'aujourd'hui, il y a eu un souci avec l'enregistreur. Et donc, je pense qu'on aura peut-être 40 minutes de l'émission, mais pas plus. Donc, je pense que la clé USB qui enregistre l'émission était pleine. Voilà.
En tout cas, on peut aller sur le site... pour retrouver les autres podcasts, en tout cas.
Oui, il faut qu'on les mette en ligne. Hein.
Oui, mais voilà, en tout cas, c'est sur le site.
Sur du Théâtre de la Gamelle.
Voilà, Théâtre de la Gamelle, il y a un Facebook aussi.
Tout à fait. Voilà. Et on vous souhaite un bon week-end, bonne semaine qui arrive, et puis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Salut.
Il était sur son char.
Amateur.
Il n'y a pas d'art neutre. L'art combat ou sert la cause prolétarienne.
Plein d'inardeur, snob.
Journal vivant, revue politique.
Construction, obéir à sa voix.
Ah oui, c'est un malade, hein, c'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire. Hein.
Imiter son silence.